Chers auditeurs, aujourd'hui je vais vous parler d'une œuvre emblématique de la Renaissance italienne, une œuvre très célèbre, au point qu'on la retrouve sur toutes les pièces de 10 centimes d'euros émises par l'Italie. Il s'agit de la Naissance de Vénus, peinte par Botticelli en 1484 et que l'on peut admirer à la Galerie des Offices à Florence. Il s'agit d'un tableau de grande taille, 1,80 m de haut, 2,80 m de large. Il est peint à la tempéra maigre, c'est-à-dire que Botticelli a utilisé des pigments de peinture broyés qu'il a liés le plus souvent à la Renaissance avec du jaune d'œuf. Sandro Botticelli est un des artistes majeurs de la Renaissance italienne. Je devrais plutôt dire Alessandro di Mariano di Vanni Filippi, car c'est là son vrai nom. C'est sous ce nom qu'il naît en 1445 dans le Borgo Ognissanti à Florence, d'une famille modeste, puisque son père est un simple tanneur. Il est le plus jeune de 4 frères. Mais, comme beaucoup d'artistes de la Renaissance, il est connu sous son surnom. Alessandro devient Sandro, et son nom de famille est remplacé par Botticelli, Petit Tonneau. D'où lui vient ce surnom? Eh bien, cela lui vient de sa période d'apprentissage chez un maître orfèvre qui portait lui-même le surnom de Petit Tonneau, Botticello, en raison de son embonpoint. En effet, à la Renaissance, on ne peut pas exercer librement. Pour exercer le métier de peintre ou d'orfèvre, n'importe quel métier artistique, il faut faire partie d'une confrérie et donc passer par une période d'apprentissage. On est donc d'abord apprenti, nourri, logé, blanchi chez un maître qui vous apprend son métier. Cette période d'apprentissage terminée, on peut devenir compagnon et on a le droit de se faire embaucher chez un maître contre un salaire. Et puis, si l'on est vraiment doué, alors on peut devenir maître soi-même à condition de réaliser une œuvre qui montre ses compétences, ce qu'on appelle un chef-d'œuvre. À 20 ans, Botticelli rentre comme compagnon dans l'atelier de Fra Filippo Lippi, peintre célèbre de Florence, qui est aussi un moine dominicain installé au couvent San Marco. Il y côtoie les peintres Pollaiolo et Verrocchio, qui enseigneront eux-mêmes leur art à Léonard de Vinci, excusez du peu. Puis en 1470, il obtient ce fameux statut de maître et peut ouvrir lui-même son atelier. Il reçoit alors de nombreuses commandes, notamment de la part de la famille des Médicis. Ces Médicis, c'est une famille de marchands, de banquiers, qui a réussi à s'emparer du pouvoir à Florence. Et qui a besoin, pour légitimer son pouvoir, de se livrer à une intense propagande artistique. Et c'est la raison pour laquelle elle fait appel aux meilleurs artistes florentins de leur temps, notamment Botticelli. Très vite, sa renommée dépasse la ville de Florence. En 1481, il est appelé à Rome par le pape Sixte IV qui rénove la chapelle Sixtine, l'endroit où se tient le conclave, c'est-à-dire là où les cardinaux se réunissent pour élire un nouveau pape à la mort du pape. Avec d'autres artistes italiens célèbres de son époque, Ghirlandaio, lui aussi florentin, qui apprendra son art à un autre artiste célèbre, Michel-Ange, mais aussi le Pérugin Cosimo Rosselli, il décore les murs de la chapelle Sixtine. Il y peint notamment la vie de Jésus et la vie de Moïse. Puis en 1482, il revient à Florence et jure de rester à Florence quoi qu'il arrive. Il peint alors, pour Laurent de Médicis, surnommé Laurent le Magnifique, le printemps. Et Laurent de Médicis offre ce tableau à son petit cousin, Lorenzo Piero Francesco di Médicis, à l'occasion de son mariage. Le tableau sert à décorer la Villa Medicea di Castello, une des Villas Médicis aux extérieurs de Florence. En 1485, Eh bien, le même Piero Francesco di Médicis demande à Botticelli de réaliser un tableau en face du printemps qui lui fasse pendant. C'est ce fameux tableau dont je vais vous parler, La naissance de Vénus, peint donc en 1485. Que voit-on sur ce tableau et pourquoi est-ce un tableau si important pour l'histoire de l'art? C'est un tableau où l'on voit quatre personnages, grandeur nature, et surtout, au centre, Vénus, la déesse de l'amour dans la mythologie gréco-romaine. Alors, il s'agit de la naissance de Vénus. Dans la mythologie gréco-romaine, eh bien, Vénus est née du sperme d'Uranos lorsque Cronos, le dieu du temps, a émasculé son père, Uranos, le dieu du ciel. Le sperme d'Uranos s'est déposé sur Terre, Gaïa, chez les Grecs, et a fécondé la Terre pour donner naissance à travers l'écume, eh bien, à la déesse de l'amour, Vénus. Dans le tableau, ce n'est pas exactement cela qui est représenté, car Vénus est certes nue, avec une longue chevelure rousse, par lequel elle cache son sexe de la main gauche, et tandis que sa main droite cache ses seins. Mais elle ne sort pas exactement de l'eau, car elle repose sur un immense coquillage, une coquille Saint-Jacques. Au Moyen-Âge, on est encore au Moyen-Âge, la coquille Saint-Jacques peut symboliser bien sûr le sexe féminin, mais aussi la résurrection. Cet immense coquillage sur lequel se tient Vénus flotte sur les eaux et est porté vers une île où se trouvent des oliviers. Le coquillage est poussé par le souffle d'un personnage masculin ailé, vêtu d'un pâle manteau bleu à la droite de Vénus. Ce personnage ailé tient dans ses bras une femme, elle aussi rousse et elle aussi ailée. Il s'agit d'Aura, la brise, le personnage étant Zéphyr, le vent du printemps. Avec ce souffle tombent des fleurs de rose. Une fleur rapportée par les croisés au XIe siècle en Occident qui symbolise l'amour. À gauche de Vénus, sur l'île, une femme, là encore une rousse, attend Vénus. Elle est vêtue d'un long manteau blanc, fleuri, et tient dans ses mains un voile rouge, fleuri lui aussi, dont elle veut couvrir Vénus. Il s'agit d'une des filles de Jupiter. L'heure, chaque heure symbolise une saison, il s'agit cette fois-ci de l'heure du printemps. Ce tableau peint par Botticelli n'était pas visible par tous. Il était à usage privé, notamment pour les amis des Médicis qui appartenaient au cercle des néoplatoniciens. Ainsi, parmi ces néoplatoniciens, on a Ange Policien qui, dans l'une de ses stances, c'est-à-dire dans l'un de ses poèmes, décrit la naissance de Vénus. Je vais vous lire ce poème. Dans léger tempétueux, dans le sein de Tétis, est née dedans, avec un air charmant et joyeux, une damoiselle plus qu'humaine de visage. Par des zéphyrs lascifs poussés vers le rivage, allée sur un coquillage, et il semble que le ciel en jouisse. On aurait pu jurer que l'onde jaillissait, la déesse pressant de la main droite sa chevelure, que de l'autre main, son tendre fruit, elle recouvrait. D'après l'historien de l'art Abby Warburg, le tableau de Botticelli est inspiré de ce poème d'Ange Policien. Mais est-on sûr que Botticelli représente réellement Vénus? Car les traits de Vénus, on les retrouve dans d'autres tableaux de Botticelli. On les retrouve en 1480 dans un tableau intitulé « Mars et Vénus ». On les retrouve en 1482 dans le tableau qui faisait pendant à la naissance de Vénus, le printemps, sous les traits de l'une des trois grâces. Et surtout, on le retrouve dans un portrait posthume de Simonetta Vespucci, la belle Simonetta. C'est ainsi que les Florentins la surnommaient. Simonetta est née à Gênes, puis elle épouse Marco Vespucci, cousin du célèbre navigateur Amerigo Vespucci qui donnera son nom à l'Amérique, et elle devient rapidement la maîtresse de Julien de Médicis, le frère de Laurent de Médicis qui régnait à Florence. Considérée comme la plus belle femme de Florence, elle meurt malheureusement, fauchée en pleine jeunesse, à l'âge de 23 ans, en 1476, sans doute emportés par la tuberculose ou la peste. Alors, la naissance de Vénus est un tableau qui fait date dans l'histoire de l'art. Car pour la première fois, un artiste ose représenter un nu féminin sur un tableau depuis l'Antiquité. Bien sûr, cette référence à la mythologie gréco-romaine et au canon esthétique des Romains et des Grecs, notamment la nudité, ne plaît pas à tout le monde, et notamment à une partie de l'Église catholique. Savonarole, un frère dominicain venu de Ferrare et qui entre au couvent de San Marco, ne cesse de prêcher contre ses œuvres licencieuses, contre ce luxe ostentatoire dont s'entourent les Médicis. En 1495, il arrive à prendre le pouvoir à Florence et à chasser les Médicis. Il installe alors une véritable théocratie et demande en 1497 à ses partisans de venir brûler les œuvres licencieuses. Botticelli fait partie des partisans de Savonarole et vient porter lui-même au bûcher ses propres œuvres. Mais en 1498, Savonarole va trop loin. Il critique cette fois-ci le pape et ses mœurs. Il faut dire qu'il s'agit du pape Alexandre Borgia. Il est alors excommunié, puis arrêté et brûlé sur la place de la Seigneurie à Florence, à l'endroit même où se dressait le bûcher des vanités. Botticelli, après l'exécution de Savonarole, ne peint plus que des œuvres religieuses. Il ne reçoit plus de commandes des Médicis, et Giorgio Vasari, l'un des plus célèbres biographes des peintres de la Renaissance, nous dit qu'il finit sa vie vieux et infirme. Il meurt en 1510, oublié de tous, mais il demande à être enterré aux pieds de Simonetta Vespucci dans l'église Ognissanti. Si un jour vous passez à Florence, allez donc voir l'église Ognissanti. Vous y trouverez dans le transept droit la chapelle Saint-Pierre d'Alcantara, où se trouve la tombe de Botticelli et Simonetta Vespucci, réunis dans la mort. Puis, allez donc à la Galerie des Offices, admirez la naissance de Vénus, une œuvre qui respire le luxe, certes, mais aussi le calme et la volupté.